Depuis une vingtaine d'années déjà, comme beaucoup d'autres de mes compatriotes et coreligionnaires, j'ai porté dans mon cœur une très grande souffrance. Et il m'est arrivé vraiment certains jours, littéralement, de pleurer lorsque je voyais non pas tellement la situation spirituelle, morale de mon pays, mais lorsque je voyais ce qui m'apparaissait bien pire, la situation spirituelle de mon Église. Et le drame qui se joue en France, et j'espère que ce drame vous est épargné à vous, c'est le drame de voir des fidèles attachés à Jésus-Christ, attachés à la parole de Dieu, cesser d'aller dans leurs églises, tellement ce qu'ils pouvaient y entendre les blessait et les meurtrissait. Un des amis de notre faculté qui y enseigne l'histoire, que certains d'entre vous connaissent certainement de nom, il est probablement le plus grand historien français actuel, Pierre Chaunu. Pierre Chaunu, un jour, voit sa petite fille revenir en larmes de l'école du dimanche. « Pourquoi pleures-tu ? » lui demande son père. Eh bien, le pasteur nous a dit qu'il fallait surtout pas croire que le cadavre de Jésus était sorti du tombeau. Cette petite fille avait perdu, 2 ans auparavant, son frère aîné, mort de leucémie à l'âge de 15 ans, et mort en disant le Notre Père. Quand on pense qu'aujourd'hui, des pasteurs, en France, disent du haut de la chair de telles énormités que leurs églises fondent, perdent leur substance, alors il y a de quoi avoir non seulement des larmes aux yeux, mais une immense peine dans le cœur. Et personnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, cela fait 20 ans que je connais cette détresse. J'ai été le pasteur dans les derniers mois de sa vie d'un homme dont vous connaissez sans doute tous le nom, le pasteur Marc Bögner. Et le pasteur Marc Bögner, dans les dernières semaines avant sa mort, commençait à constater cet enfoncement, ce désastre spirituel dans lequel on était en train de s'engager. Et dans des moments où il avait une certaine conscience, mais où en même temps il commençait à délirer, il était très âgé, il est mort dans de longues souffrances, eh bien, il ne pouvait s'empêcher de poser des questions quant à l'avenir, parce que il voyait le mouvement œcuménique dont il s'était tant occupé s'enfoncer dans une sorte de délire politico-social. Il voyait l'Église réformée de France, dont il avait été l'un des artisans de l'unité, qui dépérissait spirituellement. Et il avait eu la grande douleur, surtout, de voir un de ses propres petits-fils, après avoir fait ses études à la faculté de théologie à Paris, abandonner non seulement le ministère, mais la foi. Si je vous dis ces choses, c'est parce que on ne peut peut-être pas ressentir dans le canton de Vaud, on ne peut peut-être pas ressentir à Lausanne, et je le souhaite pour vous, la détresse qui peut serrer le cœur de tant d'hommes et de femmes en France lorsqu'ils voient non pas tellement le monde autour d'elles, mais l'Église elle-même s'enfoncer dans n'importe quel délire et finir par dire presque n'importe quoi. Et dans cette situation, on ne peut pas, on ne doit pas céder au désespoir. parce qu'il est une chose que l'Écriture sainte nous apprend, c'est que le peuple de Dieu, l'Église, au cours des siècles de son histoire, avant Jésus-Christ, et même au premier siècle de notre ère, l'Église a connu, le peuple de Dieu a connu de ces moments de détresse, de ces moments d'apostasie, de ces moments de sommeil, de ces moments où tout semble perdu. Et cependant, par la grâce de Dieu, il a toujours subsisté un reste, et à partir de ce reste, Dieu a fait reverdir le vieux tronc. Et c'est pourquoi je ne voudrais surtout pas que ce soir, vous quittiez cette église avec une impression de pessimisme et encore moins avec une impression de désespoir. Je voudrais au contraire que vous quittiez tout à l'heure cette église avec un cœur gonflé d'espérance. Je dirais à certains points de vue qu'on est tombé tellement bas qu'il est impossible de tomber plus bas. Vous me direz, ça n'est pas une consolation. Mais on est allé tellement loin qu'on est arrivé presque au point où l'on peut dire « trop, c'est trop ». Et maintenant, il n'est plus possible d'aller plus loin. Évidemment, lorsque le sel perd sa saveur, lorsque le levain est éventé, lorsque la lumière du monde est mise sur le boisseau, lorsque l'Église n'est plus l'Église, tout en étant encore l'Église, alors le monde autour de l'Église vacille. Parce que je crois que c'est quand même l'Église qui, selon la parole apostolique, est la colonne et l'appui de la vérité. Et à partir du moment où l'Église, au lieu d'être la colonne et l'appui de la vérité, ébranle elle-même toute colonne et tout appui de la vérité, alors pour le monde autour de l'Église, c'est effroyable. Et c'est pourquoi je crois qu'il ne faut pas tellement songer à accuser le monde, à attaquer le monde, à critiquer le monde autour de l'Église. Mais c'est l'heure pour l'Église de faire au contraire son autocritique, c'est l'heure pour l'Église de réfléchir sur elle-même et sur sa mission, c'est l'heure pour l'Église de se poser les questions fondamentales. Et quand je dis l'Église, l'Église, c'est pas quelque chose de vague. L'Église, c'est vous et moi. L'Église, ce sont les hommes qui se trouvent là et qui sont chargés par Dieu d'une vocation et d'une responsabilité. C'est une heure de grande réflexion qui doit commencer pour l'Église. On voit des choses abominables, puisqu'on a vu même des églises consacrées, ordonnées au saint ministère, des homosexuels. On a vu et l'on voit des églises militer pour l'avortement. La morale ne doit plus être prêchée, enseignée, la loi de Dieu ne doit plus être proclamée. Il faut être permissif, parce qu'il faut être ouvert, parce qu'il faut être libéral, parce qu'il faut être généreux. Et alors, les gens autour de l'Église ne savent plus bien quoi penser. Le bien, le mal, ce qui est permis, ce qui est défendu, plus personne ne le sait, puisque c'est Dieu seul qui fait connaître ce qui est bien et ce qui est mal, puisque la parole de Dieu seul est la source de tout droit et de toute morale, puisque la parole de Dieu seul exprime de manière solide et sûre la vérité. Si l'Église ne dit plus la parole, qui l'entendra? Et si personne n'entend la parole, comment vivra-t-on? Vers quels abîmes s'enfoncera-t-on? Que connaîtra-t-on? Que pourra-t-on connaître encore? Oui, c'est là une situation bien dramatique. Mais je le disais, c'est le temps, c'est le moment de la repentance, de la foi, et à partir de la repentance et de la foi, c'est le temps de l'espérance. Et je suis personnellement plein d'espérance. malgré 20 ans de tristesse, malgré 20 ans de soucis et de larmes, je suis plein d'espérance. Non pas à cause des hommes, mais à cause de Dieu, qui entend notre cri, qui entend nos soupirs, qui entend nos prières, et qui veut répondre par ce que j'ai appelé dans le titre de cette conférence une nouvelle reformation. L'histoire ne se répète jamais, mais il y a tout de même des analogies dans l'histoire. L'histoire ne recommence pas, ne reprend pas les mêmes chemins, mais il y a cependant des situations qui se ressemblent. Voyez-vous, lorsque est apparue la fin du XVe siècle, lorsqu'est apparu le début du XVIe siècle, la situation en Europe était une situation tragique. C'était d'un côté l'effondrement d'une Église sclérosée qui finalement mettait entre les mains des hommes, comment peut-être stupide à ce point, la possibilité même du salut. C'était le moment où commençait la Renaissance avec son exaltation païenne de l'homme, de l'autonomie de l'homme. Et cependant, c'est dans cette situation catastrophique de la fin du XVe et du début du XVIe siècle que Dieu a suscité le mouvement de la Réformation. Ce n'est pas sans émotion que à Genève, lundi, j'évoquais les figures de Guillaume Farel, de Jean Calvin, mais je dirais, on pourrait penser aussi à des hommes qui ont œuvré ici, tout près d'ici. Je pense à Pierre Viret d'Orbe et je pense à d'autres. Il y a eu au XVIe siècle, tout à coup, comme le feu du Saint-Esprit, illuminant des cœurs, les poussant à recevoir, à écouter, à suivre la parole de Dieu. Et en tout cas en France, depuis le début des toutes premières communautés de la Réforme, avant même que ce soit vraiment des églises, disons en gros à partir de 1522, et cela jusqu'en 1562, c'est-à-dire le moment du départ des guerres de religion, pendant 40 années, c'était les bûchers, c'était les martyrs, c'était les persécutions, et cependant, c'est durant ce temps-là que les églises réformées en France, cinq dressées en 1555, une centaine dressées au moment du premier synode national en 1559, étaient en 1562 2150. Et que, selon le témoignage d'un vieil historien du protestantisme, la France était en train de devenir protestante. Ça a été un grand malheur que les guerres de religion, car Calvin qui avait tellement lutté contre toute idée de révolte armée, Calvin qui dans ses lettres avait supplié les chrétiens réformés de France de ne pas se battre mais de subir plutôt la croix ou de subir plutôt les bûchers, oui. Malgré les exhortations de Calvin, un certain nombre de protestants, c'était surtout les princes protestants, je pense en particulier au prince de Condé, décidèrent de prendre les armes. Et à partir de là, il y a quelque chose qui n'a plus marché. Et si les 2150 églises étaient là, dressées en 1562, déjà 20 ou 30 années après, elles avaient diminué de près de moitié. Et voyez-vous, l'espérance que j'ai, l'espérance que je voudrais que vous ayez, l'espérance que nous devrions avoir maintenant ensemble, c'est l'espérance d'une nouvelle réformation. Seulement voilà, il y a réformation et réformation. Il y a les réformations avec les modes de réformation, avec les institutions de réformation que les hommes peuvent cogiter, peuvent imaginer, peuvent vouloir réaliser. Alors là, ce sont des voies qui ne sont que des cul-de-sac, qui ne sont que des impasses. Car on peut bien sûr réunir un concile comme le concile de Vatican II qui s'est tenu il y a une quinzaine d'années. Seulement, si l'on discute pour décider qu'on va faire ci, qu'on va faire ça, qu'il faut dire ci, qu'il faut faire ça, sans avoir au-dessus de soi une norme à laquelle se référer, et si seulement l'on compte sur la bonne volonté, sur les capacités imaginatives des hommes, alors on ne peut aboutir qu'au désastre. Et je crois personnellement que le Concile Vatican II n'a fait que hâter le désastre pour l'Église romaine. Ou bien alors, on peut imaginer non plus une réformation selon les idées et les imaginations des hommes, mais une réformation parce que, à nouveau, mystérieusement, merveilleusement, la parole de Dieu était reçue comme parole de vérité, comme parole de jugement, comme parole de grâce, comme parole de jugement pour la repentance, comme parole de grâce pour la foi, et je dirais comme parole de vérité, comme vraie et sûre parole de Dieu, pour qu'il y ait vraiment l'espérance. Voyez-vous, c'est une chose urgente, elle est là, que l'Église, que les Églises, que les chrétiens écoutent à nouveau et reçoivent à nouveau l'Écriture sainte comme parole de Dieu, comme parole inspirée de Dieu, témoignant de la parole incarnée de Dieu qui est notre Seigneur Jésus-Christ, l'unique Sauveur, l'unique Seigneur. C'est Léon Blois qui disait, et c'est une parole qui va loin et qui souvent m'a réconforté, Léon Blois, qui était catholique, mais peu importe, vous avez les dénominations dans l'affaire, compte peu, Léon Blois disait cette parole singulière, « Lorsque je veux savoir les dernières nouvelles, je lis saint Paul. » C'est une parole formidable, celle-là. « Lorsque je veux savoir les dernières nouvelles, je lis saint Paul. » D'ailleurs, c'est tellement vrai. Vous lisez les dernières nouvelles dans le journal. 3 jours après, c'est plus les dernières nouvelles. Et 8 jours après, vous les avez oubliées. Tandis que lorsque vous lisez saint Paul, en écoutant vraiment ce qu'il a écrit, c'est d'une actualité qui vous saisit, à moins bien sûr que vous ne fermiez vos intelligences, que vous ne fermiez vos cœurs à ce que dit l'apôtre, inspiré de Dieu. Lorsque je veux savoir les dernières nouvelles, je lis saint Paul. Eh bien, on pourrait dire, lorsque je veux savoir la réformation que Dieu prépare et veut, lorsque je veux savoir ce qu'il faut faire dans ce monde si dur, si terrible où nous sommes, je lis la Bible. Et quand je dis « je lis la Bible », le « je » que j'emploie n'est pas tellement, croyez-le, un « je » personnel. Bien sûr, il faut que chacun de nous lise la Bible. Mais il faut que ce « je lis la Bible » soit le « je » de l'Église. Ah, si l'Église, en 1978, dans toutes ses dénominations, se remettait à lire les dernières et seules nouvelles qui importent. Si l'Église se mettait à écouter et à recevoir l'Écriture sainte comme une lettre de Dieu, comme un appel de Dieu, comme un évangile de Dieu, comme une loi de Dieu, alors oui, la réformation, la vraie nouvelle réformation nécessaire deviendrait possible. Et je crois, vraiment je crois de tout mon cœur, de toute ma foi, je crois que Dieu est en train de préparer cette nouvelle réformation. Beaucoup de gens ne le sentent pas, ne le voient pas, ne le croient pas, n'y pensent pas, mais ceux qui ont quelque acuité dans le regard de la foi commencent à voir, ça et là, quelque chose qui bouge, un petit peu comme au printemps, lorsque la terre commence à céder sous les nouvelles pousses. Eh bien, nous sommes là, à ce moment-là, où on sent, où on commence à entendre des craquements. Ce ne sont pas du tout des malheureux craquements, ce ne sont pas des craquements de désastre. Ce sont les craquements parce que Dieu fait monter de la sève, et parce que, à nouveau, ça et là, il commence à apparaître sous la terre qui craque quelque chose de nouveau que Dieu a préparé et qui va pousser et qui va grandir et qui va germer et qui va porter des fruits. Et c'est pourquoi je pense que dans la situation terrible où nous sommes, parce que nous sommes dans une situation terrible, il ne faut pas que l'espérance nous bouche les yeux, il ne faut pas que l'espérance nous rende aveugles. Vous savez, on dit quelquefois que l'amour est aveugle. Je suis complètement stupide. Un amour aveugle ne serait pas un véritable amour. Mais l'espérance non plus n'est pas aveugle. Ce n'est pas parce que nous espérons que nous ne voyons pas la réalité dans son tragique. Mais Dieu nous donne de voir la réalité dans son tragique et de déborder d'espérance. Dieu nous donne en ce moment même de savoir que ça se mijote, ça se prépare. C'est en train de se préparer. Dieu est en train de préparer une nouvelle reformation pour son Église. À des moments tournants de l'histoire de l'Église, Dieu a rappelé la parole de Dieu, et la parole de Dieu s'est imposée à l'Église. Je pense par exemple à une époque bien lointaine, c'était dans les premiers siècles. Alors, il y avait une hérésie terrible qui infestait l'Église. Les églises dans leur ensemble, les évêques à leur tête, cédaient à cette hérésie. C'était le moment de l'arianisme. Il y avait un certain Arius qui ne voulait pas reconnaître que Jésus était le Seigneur, que Jésus-Christ était Dieu avec le Père et le Saint-Esprit. Il faisait de Jésus-Christ une créature, une créature plus belle que les autres peut-être, mais une simple créature. Arius ne voulait pas reconnaître en Jésus-Christ la parole éternelle de Dieu, Dieu lui-même, fait chair, devenu homme pour le salut du monde. Et presque tout le monde était à rien. J'allais dire presque tout le monde était bon à rien. Mais on était à rien partout. Il n'y avait plus que des à rien. On croyait plus en Jésus-Christ, vraiment. Et puis voilà qu'un moine, un simple moine qui était plus ou moins perdu en Égypte, dans le désert, mais qui croyait à la parole de Dieu et qui s'appelait Athanase, s'est levé. Il était presque seul, on l'a d'ailleurs persécuté, on l'a écarté, on l'a exilé, on a tout fait pour ne plus l'entendre. Seulement le malheur, pour les Ariens, c'est que la parole que disait Athanase n'était pas sa propre parole. La parole que disait Athanase, c'était la parole que Dieu dit dans l'Écriture. Et la parole que Dieu dit dans l'Écriture, c'est que la parole qui est Dieu s'est faite chair, qu'elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et qu'il n'y a pas de salut ailleurs qu'en elle. Cette parole incarnée, cette parole faite chair et clouée sur une croix pour ressusciter victorieuse au troisième jour. Alors voilà, Athanase s'est levé et ça a commencé à bouger. Ça a tellement commencé à bouger que finalement l'arianisme peu à peu a disparu. Et il y a eu un élan à nouveau dans l'Église, partout, en l'Orient, en Occident. Et à nouveau, la foi en Jésus-Christ Seigneur a refleuri. Ça s'est passé, cela, au premier siècle, dans les premiers siècles de notre ère. Et on a vu au XVIe siècle aussi, à un moment où il semblait que l'humanisme de la Renaissance allait l'emporter. On a vu tout à coup un moine, encore un moine, Martin Luther, qui s'est levé et qui s'est mis à annoncer la parole de Dieu et qui se sentait tellement lié par cette parole qu'il disait « Je ne peux pas dire autrement que je ne dis, je ne peux pas faire autrement que je ne fais, parce que c'est la parole de Dieu qui est là et la parole de Dieu s'est imposée à ma conscience. » Alors ce qui s'est passé dans les premiers siècles, ce qui s'est passé au temps de la Réformation, je pense, je crois, je sais que cela doit se passer en cette fin du XXe siècle. Et c'est pourquoi, quand j'ai la vision d'une nouvelle Réformation, cela signifie aussi que Il nous est demandé aux uns et aux autres d'oublier bien souvent toutes sortes de traditions dont je ne dis pas d'ailleurs qu'elles soient toutes mauvaises, toutes sortes de traditions qui petit à petit sont venues encombrer nos pensées, nos manières de voir, nos manières de faire. Comme si à nouveau nous allions nous retrouver devant l'Écriture sainte, devant la parole de Dieu, pour recevoir comme si c'était tout neuf, comme si c'était tout merveilleux, tout vrai, tout beau, ce qu'elle avait à nous dire. Et c'est pour ça qu'il faut nous méfier de l'esprit dénominationnel, comme disent les anglo-saxons, de l'esprit de clocher, de l'esprit de chapelle. Vous savez, dans cette affaire, peu importe au fond de savoir trop ce qui va se passer du côté de l'Église catholique ou du côté de l'Église orthodoxe ou du côté de l'Église protestante, on ne sait pas du tout ce que Dieu mijote et prépare et veut. Après tout, c'est peut-être de l'Église orthodoxe que sortira cette fois la flamme d'une nouvelle réformation. Ce sera peut-être de l'Église romaine elle-même, ce sera peut-être de nos églises de la réforme. Peu importe, parce qu'après tout, la foi, la vraie foi, la foi en la parole de Dieu, la foi en la vérité de Dieu, est autrement importante que nos étiquettes ecclésiastiques et que nos dénominations. Oh, je suis membre et pasteur de l'Église réformée de France, et j'ai été ordonné dans cette Église, et j'aime profondément l'Église réformée de France. Mais enfin, je préférerais au bout du compte que périsse l'Église réformée de France, plutôt que la vraie foi, parce que la vraie foi est autrement importante que telle ou telle Église. C'est pour ça que la nouvelle réformation a une portée écuménique. Non pas, je n'emploie pas le mot écuménique au sens du mouvement écuménique, ou au sens de l'ONU, ou de je ne sais pas quelle autre organisation internationale de ce genre. Quand je dis écuménique, je le prends au sens originel. D'ailleurs, vous le savez, vous ne le savez peut-être pas, mais le premier homme qui a employé le mot écuménique, et il l'employait dans un sens très fort et très beau, c'était Adolphe Monod, l'auteur des Adieux. C'est lui qui a inventé, qui a lancé le premier le mot écuménique. On n'a aucune raison pour le laisser aux gens du mouvement écuménique ou à l'ONU. On peut bien le reprendre, ce mot. Je dirais que la nouvelle réformation, c'est une réformation qui va être écuménique. Ça veut dire qui va toucher toutes les églises, tous les peuples. Voilà la première chose que je voulais vous dire. Mais il y a une seconde chose que je voudrais dire et qui me paraît bien indispensable à dire. Pour toutes sortes de raisons, au moment où s'est opérée, où s'est effectuée la réformation du XVIe siècle, ce que l'on a surtout saisi, c'était la nécessité de reformer une théologie qui s'était déformée et de réformer une église qui s'était déformée. Autrement dit, la vision de la réformation du XVIe siècle, c'était une vision ecclésiastique et théologique. C'est très important. Et je crois d'ailleurs que la nouvelle réformation, il faudra qu'elle soit d'abord ecclésiastique et théologique. Mais je dirais que notre vision, et c'est là où je vais reprendre le mot écuménique, doit être une vision beaucoup plus large que ça. Car la parole de Dieu n'est pas une vérité que nous devons en quelque sorte bloquer, que nous devons réduire à un secteur, à un domaine particulier de notre existence. Si Dieu a donné sa parole, si Dieu a communiqué sa parole, si Dieu a inspiré des prophètes et des apôtres pour nous apporter, pour nous présenter sa parole, c'est non seulement pour que la théologie soit renouvelée selon cette parole, pour que l'Église soit renouvelée selon cette parole, mais c'est pour que tout soit reformé selon cette parole. Tout! Un théologien du siècle dernier avait cette expression que j'aime beaucoup. Il n'est pas un domaine de l'existence humaine dont Jésus-Christ ne puisse dire « c'est à moi ». D'ailleurs, saint Paul le dit, tout est à Christ. Si bien que ce serait une profonde erreur de ne voir l'autorité de la parole de Dieu s'appliquer qu'au domaine ecclésiastique ou au domaine théologique. Bien sûr, l'Église doit écouter la parole de Dieu et se reformer selon elle. Bien sûr, la théologie doit écouter la parole de Dieu et se reformer selon elle. Mais tout doit être soumis à la parole de Dieu. Et c'est d'ailleurs saint Paul qui écrivait qu'il fallait que toute pensée soit amenée captive à Jésus-Christ. Et c'est vrai pour la philosophie, c'est vrai pour les sciences, c'est vrai pour les arts, c'est vrai pour notre travail, c'est vrai pour le domaine politique et social. Il faut que Jésus-Christ, la parole incarnée de Dieu, règne par sa parole inspirée, l'Écriture sainte, sur tous les domaines de l'existence humaine. Et notre vision de la réformation qui va venir doit être une vision universelle, une vision écuménique. Parce que Dieu ne veut pas du tout que nous lui apportions seulement notre piété. Dieu veut notre piété, mais il ne veut pas que notre piété. Il veut que notre vie professionnelle, il veut que notre vie sociale et politique, il veut que notre vie philosophique et scientifique, il veut que notre vie artistique, il veut que tous les domaines de notre existence se rangent à sa parole. Tout ce qui ne se range pas à la parole de Dieu est dérangé. Tout ce qui ne se soumet pas au sens de la parole de Dieu est insensé. Et il faut que nous saisissions cela, et d'abord pour nous-mêmes. Je suis un insensé si je ne reçois pas le sens de la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est le premier des psaumes qui le dit. Insensé, celui qui ne suit pas le sens de la parole de Dieu, est dérangé, complètement dérangé. Celui qui ne se range pas à la parole de Dieu. L'homme n'aime pas ça. Parce que l'homme, voyez-vous, il aime bien se donner lui-même le sens qu'il veut à sa propre vie. C'est pour ça d'ailleurs que ces sens sont des faux sens quand ce ne sont pas des non-sens. Et l'homme aussi, il veut ranger sa propre vie, arranger sa propre vie selon les caprices de sa volonté ou selon les pensées qui lui voltigent dans le cerveau. Mais en un sens, je dirais, il faut être complètement fou pour voir les choses comme ça. Il faut être complètement fou. Parce que l'homme a été fait pour Dieu. Dieu a créé l'homme pour lui. Si bien que l'homme qui ne vit pas pour Dieu perd sa vie, gâche sa vie, abîme sa vie, ruine sa vie. Mais celui qui revient à Dieu, celui qui revient à Jésus-Christ, celui qui revient à la parole de Dieu, celui qui revient à l'Écriture sainte, tout à coup retrouve le sens, le vrai sens, le bon sens de sa vie. Et c'est pourquoi la tâche qui est devant nous, chers amis, c'est une tâche formidable. On pourrait dire, mais ça tient pas debout d'essayer ça. Oui, en effet. S'il s'agissait d'une utopie que nous aurions imaginée, et si nous comptions pour réaliser cette utopie sur notre propre force, en effet, ce serait complètement fou. Mais nous ne comptons pas sur nous pour cette affaire. Heureusement, d'ailleurs. Pensez, si je devais compter sur moi pour ce que j'ai à faire, je serais loin du compte. Nous n'avons pas à compter sur nous. Celui ici qui veut compter sur lui pour construire sa vie, il est en train de courir à la destruction, à la ruine, à la perdition, à la mort. Mais compter sur Dieu. Compter sur Dieu. Revenir à Dieu. Réécouter Dieu. Resuivre Dieu. Celui qui me suit, dit Jésus, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit.
Ah, je veux suivre personne. Moi, je veux marcher à mon idée.
Si tu veux te perdre, évidemment. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Il faudrait même traduire d'une façon plus forte. Le chemin, la vérité, la vie, c'est moi, dit Jésus. Le chemin. Il n'y en a pas 36. Le chemin. La vérité. Il n'y en a pas 36. La vérité. La vie, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une. Le chemin, la vérité, la vie, c'est lui, c'est Jésus. C'est la parole incarnée, c'est la parole inspirée. Et finalement, Dieu nous appelle. Je voudrais que chacun de vous ici soit bien persuadé ce soir que chacun de vous, Dieu l'appelle à rentrer dans la prière pour la reformation, dans le labeur pour la reformation. Et je dirais, j'ajouterai, quoi qu'il en coûte. Vous savez, quelquefois, les protestants, même évangéliques, je dirais, ils ont une attitude un peu de profiteur. Le salut, c'est gratuit. Mais le salut de la grâce de Dieu, le salut gratuit, ça n'est aucunement un salut qui ne nous coûterait rien. Le salut gratuit, c'est pas une glissade où il n'y a qu'à se laisser aller. Le salut gratuit que Dieu donne aux siens, c'est un salut durant lequel et pendant lequel, tout au long duquel, Dieu va créer en nous le vouloir et le faire. Il va nous mettre au boulot, il va nous mettre au travail, il va nous employer, il va nous utiliser. Bien sûr, il est souverain. Il est souverain, c'est pas notre vouloir et notre faire à nous, c'est le vouloir et le faire que Dieu va créer en nous, va maintenir en nous, va développer en nous. Et c'est pourquoi nous pouvons vraiment, je vous l'assure, croire à cette nouvelle reformation et entrer déjà dans la prière et dans l'obéissance, dans le mouvement de cette nouvelle reformation, parce que, au bout du compte, c'est un autre que nous qui mène à faire. C'est un autre que nous qui l'a conçu, qui la veut. C'est un autre que nous qui saura nous pousser quand il le faudra, nous retenir quand il le faudra, nous animer toujours, nous conduire toujours, jusqu'à ce que l'on voit là refleurir une église qui soit vraiment l'église. Je dirais alors, peu importe à ce moment-là si cette église vit dans une tranquillité relative ou cette église vit sous la persécution, peu importe si cette église compte un grand nombre de membres ou si elle en compte de petits, je dirais que toutes ces qualifications-là, plus grandes, plus petites, ça n'entre pas en ligne de compte. Il faut que l'église redevienne l'église pour que le monde à nouveau puisse entendre la voix de la vérité. Il faut que l'Église soit à nouveau l'Église pour qu'à nouveau l'Évangile soit proclamé et que la loi de Dieu soit proclamée. Ah oui, la loi de Dieu, j'en parlais hier soir. Il y a l'Évangile, c'est vrai, et toute la Bible exprime l'Évangile, c'est vrai. Mais il y a aussi la loi, et toute l'Écriture exprime aussi la loi. Et ce n'est pas une loi, je dirais, qui est faite pour nous, pour nous abîmer. C'est une loi qui est faite pour nous restaurer. C'est pas une loi qui est faite pour nous embêter. C'est une loi qui est faite pour nous réjouir. C'est pas une loi qui va nous être pénible et insupportable. Ça va être au contraire, comme l'a dit Jésus, un joug qui nous sera facile, un fardeau qui nous sera léger. Ça ne veut pas dire que ça ira tout seul, mais ça veut dire que même si c'est dur à certains moments, ce sera un fardeau reçu et accueilli. Je pense souvent à cette parole de Calvin au moment de sa mort. Il était torturé par plusieurs maladies terribles, il souffrait atrocement. Et il avait cette parole admirable. « Tu me piles, Seigneur, mais il me suffit que ce soit ta main. » Ah, oui, même si c'est terrible, c'est facile, parce que c'est sa main. Même si c'est dur, c'est léger, parce que c'est sa main. Oui, c'est ça la nouvelle reformation. C'est ça la nouvelle reformation. Et c'est pourquoi il faut que nous vivions dans l'église où nous nous trouvons, dans l'église peut-être à laquelle Dieu nous a appelés, peut-être dans l'église même où il nous a fait naître. Il faut que nous soyons dans l'église où nous sommes, des priants, des orants, des travailleurs, au service de cette reformation. Alors à nouveau, on saura ce que c'est que le droit, parce qu'on saura de quelle source jaillit le droit. On saura à nouveau ce qu'est la vraie morale, ce qu'est le vrai sens du bien et du mal, parce qu'on connaîtra à nouveau la source, la seule source du bien et du mal. Et toutes les horreurs que l'on voit un peu partout et que l'on voit même quelquefois à l'intérieur de l'église, toutes ces horreurs, peu à peu, s'en iront, seront balayées. parce qu'il y aura le souffle de l'Esprit Saint, le souffle de la vérité qui aura passé par là. Oui, un temps de reformation. Et c'est pourquoi nous pouvons peut-être nous sentir, nous éprouver dans la détresse, dans la peine. Et nous avons bien le droit, même si Dieu le permet, de laisser encore couler des larmes. Mais nous ne pleurons pas, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous sommes peut-être sous le joug de l'adversaire qui veut nous tenter, nous contraindre, nous écarter de Dieu. Et nous ne désespérons pas. Nous savons qu'il y a une vérité. Les gens d'aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, jusque dans la chair dite de vérité, ne croient plus qu'il y a la vérité. Et je le disais hier soir, c'était quand même terrible de penser que Pilate était à côté de la vérité, était devant la vérité, que la vérité était là, qu'il pouvait la regarder dans les yeux, et qu'il pouvait avoir cette question terrible. Qu'est-ce que la vérité? Et les hommes d'aujourd'hui, et dans l'Église, les chrétiens, sont parfois à se demander s'il y a une vérité, et qu'est-ce que la vérité? Alors qu'ils ont la vérité à portée de leurs mains, à côté d'eux, devant eux. Mais elle n'est pas n'importe où, dit le livre de Deutéronome, la vérité, elle n'est pas perchée quelque part bien haut dans le ciel où on ne pourrait pas l'atteindre. Elle est là, tout près de nous, à côté de nous. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous serons inexcusables, nous ne pourrons pas aller dire, mais moi je ne pouvais pas savoir. Comment tu ne pouvais pas savoir? Tu l'avais là, ma parole, tu pouvais la prendre en main, tu pouvais l'ouvrir, tu pouvais la lire, tu pouvais l'écouter, tu pouvais la recevoir. Et tu poses la question, qu'est-ce que la vérité? Oui, mes amis, nous sommes dans un temps où nous avons le droit d'être en peine. Mais nous sommes dans un temps où nous avons le devoir d'être plein d'espérance grâce au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Unique créateur de l'univers et unique sauveur des siens.
Salut, montagne bien-aimée, pays sacré de nos aïeux. Sont semés de la souvenir glorieux, élevez vos têtes chenues, espérons vos gestes égaux de la gloire qui monte au nuages, vous n'êtes que le piédestal. Esprit qui les fait vivre, anime leurs enfants, anime leurs enfants, pour qu'ils sachent les suivre. Esprit qu'il est